Vous allez sentir la différence, la hausse des températures, même si on reste quand même en dessous des moyennes de saison. 10 degrés à Dunkerque, 12 à Aurillac et Lille, 13 à Brest et Saint-Étienne, 14 degrés à Strasbourg, 16 à Paris et Nantes, 18 pour Bastia, 19 à Ajaccio. Donc vous voyez que ça remonte, mais les valeurs restent toutes en dessous de 20 degrés. Alors j'ai commencé par les bonnes nouvelles, maintenant on va parler des choses qui fâchent. Pour le ciel, eh ben c'est franchement pas terrible ce vendredi. On a un temps perturbé partout, sauf en Corse. Voilà, c'est assez simple. Il y a du mauvais temps partout, des averses tout au long de la journée. C'est-à-dire que quand vous n'aurez pas une averse, vous aurez une éclaircie. Puis quelques temps après, tout de suite une averse. C'est perturbé partout. Déjà ce matin, on a de la pluie sur la Bretagne, le Nord-Pas-de-Calais, les côtes de la Manche, l'Auvergne, l'Occitanie, l'Alsace. Et toute la journée, comme ça, le ciel va alterner entre nuages et éclaircies. Puis on aura aussi des orages entre l'Auvergne et les Cévennes.
Merci Anissa Dadi. Bon réveil avec Europe 1. Voici votre journal. Il est 5h sur Europe 1.
Europe 1, bonjour.
5h-7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Ce n'était finalement pas un accident. Kenji Girac a révélé aux enquêteurs ce qui s'est véritablement passé lundi matin dans sa caravane. Le chanteur était en état d'ébriété. Il a tenté de simuler un suicide pour que sa femme renonce à le quitter. On va tout vous raconter dans ce journal. Le grand soir pour le gouvernement. Les agences de notation Fitch et Moody's vont réévaluer la solidité financière de la France. Quel changement si notre note devait être dégradée? On vous répond dans un instant. Projet contre projet, c'est ainsi que Jordan Bardella entend affronter le camp présidentiel aux européennes. La tête de liste RN a livré son programme quelques heures à peine après le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne. Et puis Europe 1, radio officielle de Roland Garros, à un mois du coup d'envoi du tournoi. On va voir quelles sont les nouveautés de cette édition 2024. Le journal de 5h, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Une dispute qui finit mal, voilà le fond de l'affaire. Kenji Girac, le chanteur blessé par balle en pleine poitrine lundi et toujours hospitalisé, soutenait depuis le début de la semaine qu'il s'agissait d'un accident. Mais face aux enquêteurs, il a finalement révélé avoir voulu simuler un suicide pour que sa femme ne le quitte pas. À Mont-de-Marsan, la correspondance de Stéphane Place.
Pas d'intervention d'un tiers, pas un tir accidentel non plus. Dimanche dernier, toute la journée, Kenji Girac boit beaucoup, un peu plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, selon les estimations médicales. Les analyses révéleront aussi des traces de cocaïne. Ivre, quand il revient dans sa caravane, le chanteur se dispute avec sa compagne. D'autant qu'en rentrant, il a réveillé leur petite fille. Entendant sa femme évoquer son départ, l'artiste, seul dans le salon, la petite et sa mère sont dans la chambre, va s'emparer du pistolet qu'il a acheté quelques jours plus tôt, 500 euros. Olivier Janson, le procureur de la République de Mont-de-Marsan.
Il ne dit plus que le coup est parti involontairement. En fait, cette impulsion a consisté pour lui à vouloir faire peur à sa femme. Il indique qu'il a eu lui-même très peur quand il a entendu parler de départ. En quelque sorte, il a simulé un suicide, dit-il. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur comprenait des munitions ou pas. Il le croyait vide, dit-il, et c'est volontairement qu'il s'est tiré dessus.
Quelques expertises sont en cours d'achèvement, mais le magistrat explique que cette procédure sur le plan judiciaire devrait donc se terminer par un classement. Mont-de-Marsan, Stéphane Place, Europe 1.
À New York, Fanny, la condamnation de l'ancien producteur américain Harvey Weinstein a été annulée par la cour d'appel.
Oui, à cause d'un vice de forme qui, selon son avocat, ne lui aurait pas permis d'avoir un procès équitable. Un nouveau procès devra donc avoir lieu 4 ans après celui qui avait condamné le producteur de 72 ans à 23 ans de prison.
Il est 5h03 sur Europe 1. C'est donc aujourd'hui que les agences de notation Fitch et Moody's vont rendre leur verdict.
Vont-elles ou non dégrader la note de la France? Réponse tard ce soir, avec un déficit bien plus important que prévu, des estimations de croissance revues à la baisse et 20 milliards d'euros d'économies à faire. Le contexte n'incite pas à l'optimisme. Baptiste Morin, vous êtes le chef du service économie d'Europe 1. Quelles seraient les conséquences d'une dégradation de la note française?
Le risque économique est celui d'une réaction des marchés, une hausse des taux auxquels la France emprunte, en clair que ses créanciers réclament une meilleure rémunération. Après tout, ils seraient en mesure de le demander. Mais ce risque a déjà été absorbé par les marchés, explique Charlotte de Montpellier, chef économiste chez ING.
Il pourrait y avoir une réaction si, par exemple, on avait un jour une agence de notation qui dégradait de manière nette, par exemple deux crans. Alors là, on pourrait avoir une surprise et une réaction des marchés. Mais s'il y a une dégradation vraisemblable ou raisonnable compte tenu du contexte, en fait, c'est déjà intégré dans les cours et finalement, les marchés réagissent très peu à ce genre d'événement.
Et puis, la France reste un placement recherché en Europe. Il y a plus attractif sur le papier pour les créanciers. Par exemple, il y a l'Allemagne, mais les Allemands émettent très peu de dettes. Alors à la place, les investisseurs se tournent vers la France. Et ce n'est pas une dégradation qui ferait passer la note française de l'équivalent d'un 18 sur 20 à un 17 sur 20 qui y changera grand-chose.
Baptiste Morin.
Après la grève avortée des aiguilleurs du ciel, l'aérien de nouveau à la une de l'actualité aujourd'hui.
Mobilisation des pilotes de ligne. Leur principal syndicat, le SNPL, appelle à une manifestation à Roissy-Charles de Gaulle pour dénoncer une intelligence artificielle de plus en plus présente dans les cockpits. Les pilotes craignent qu'à terme, l'IA diminue les équipages aux commandes, voire remplace les humains aux manettes.
Europe 1, 5h05, les nationalistes dans le viseur d'Emmanuel Macron hier lors de son discours sur l'Europe à la Sorbonne.
Ils nous ont habitués à un discours qui est de dire « j'empoche tout ce que l'Europe a fait, mais en ne respectant pas les règles et en bafouant ses fondements ». Voilà ce qu'a déclaré le chef de l'État. La réponse de Jordan Bardella, tête de liste RN aux Européennes, ne s'est pas fait attendre. Le leader du Rassemblement National veut jouer projet contre projet. Alexandre Chauveau, il a présenté le programme de son parti pour ces élections, une Europe des nations dans laquelle la France jouerait un rôle central.
Oui, un projet bâti sur deux piliers, protéger et produire. La protection d'abord, avec un renforcement des frontières, en faisant de Frontex une vraie agence de lutte contre l'immigration clandestine. Protection également des intérêts économiques de l'Union, en luttant contre la concurrence déloyale en matière de libre-échange. La production ensuite, pour tenter de réduire les dépendances de l'Europe. Cela passerait notamment par une coopération européenne des pays favorables au nucléaire, censé permettre, grâce à une énergie à bas coût, la réindustrialisation du continent. Jordan Bardella, tête de liste du RN aux élections européennes.
Ce que nous prenons pour de l'ouverture et de la générosité est en réalité perçu par nos concurrents comme de la faiblesse, du renoncement et bien souvent comme de la naïveté. Nous incarnons, je le crois, ce projet de redressement, profitable tout à la fois à notre pays et à notre continent.
Au Rassemblement National, le discours d'Emmanuel Macron hier à la Sorbonne est vu comme un engagement personnel dans la campagne. En cas de défaite, il devra donc en tirer toutes les conséquences, affirme Jordan Bardella, qui demandera, en cas de victoire le 9 juin prochain, une dissolution de l'Assemblée.
Alexandre Chauveau.
Les sports à 5h07 sur Europe 1. Il reste un mois seulement avant les premiers échanges de balles à Roland-Garros.
Oui, début du tournoi le 26 mai prochain jusqu'au 9 juin. Cette année encore, Europe 1 a la joie d'être radio officielle de Roland-Garros. Une édition 2024 qui compte quelques nouveautés, notamment sur le cours Suzanne Lenglen qui se dote d'un toit rétractable, Axel May.
Roland-Garros, c'était la dernière épreuve du Grand Chelem à ne proposer qu'un seul court couvert. Ce ne sera plus le cas. 4 ans après le central, le Suzanne Lenglen se dote enfin d'un toit rétractable, se félicite la directrice du tournoi parisien, Amélie Mauresmo.
C'était vraiment important d'avoir ce deuxième court couvert en capacité d'abriter 10 000 personnes. C'est un vrai plus pour nous en termes de programmation, de sécurité sur des journées où on saura qu'il risque de pleuvoir.
Pour la première fois, le cours Suzanne Lenglen sera d'ailleurs utilisé lors de la semaine des qualifications, semaine durant laquelle les organisateurs visent 75 000 spectateurs, 50% de plus que l'année dernière. Sur l'ensemble du tournoi, plus de 650 000 personnes sont attendues, porte d'Auteuil, ce qui constituerait un nouveau record. Parmi les autres nouveautés, une 11e session nocturne va faire son apparition et la billetterie sera totalement dématérialisée. Pour pouvoir présenter leurs billets, les spectateurs devront donc télécharger l'application Roland-Garros.
Axel May.
Très bonne fin de semaine à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h08. Bon réveil à tous.
Et on va retrouver dans un instant, Alexandre, les correspondants d'Europe 1 pour la revue de presse internationale.
Oui, nous serons en Grèce pour une cérémonie très symbolique, cérémonie de passation, puisque la flamme olympique va être remise aujourd'hui même aux organisateurs français. D'abord les courses sur Europe 1 avec Thierry Léger. C'est votre pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Alexandre. Il y aura des courses en semi-nocturne sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 112 Caporal des Forges. Idéalement engagé au plafond des gains, il possède de loin les meilleurs titres parmi les 12 partants et sa dernière sortie à Vincennes. Sur le même parcours que celui qu'il empruntera aujourd'hui où il s'est classé bon 3e, lui confère à l'évidence une toute première chance. Alors notez bien, pour Vincennes, réunion 1 dans la première course, le numéro 12 Caporal des Forges.
Merci Thierry Léger, vous nous donnerez vos pronostics du Quintet juste après le journal de 5h30 sur Europe 1. Dans un instant, on oublie dans quelques minutes l'histoire dingue d'Alissa Haddadi.
Oui, celle d'un burger d'un très célèbre fast-food fermé il y a 15 ans, conservé par un anthropologue en Islande.
Miam miam, 15 ans plus tard.
Pas sûr.
Nous devons aider le continent africain.
To live with us, the European dream.
Good friend of Taiwan.
Europe 1, bonjour.
Europe 1, 5h09, la revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Grèce. Bonjour Clémentine Athanasiadis.
Bonjour.
Vous êtes à Athènes pour Europe 1. Alors, parfum de Jeux Olympiques, hein, ce matin dans la presse. De quoi parlent les journaux grecs ?
Eh bien, de la flamme olympique remise aujourd'hui aux organisateurs français. La cérémonie de passation aura lieu au stade panathénaïque d'Athènes, précise le quotidien Ikathemerini. C'est là que se sont déroulés les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne en 1896, continue le journal. La flamme a été allumée au cœur du sanctuaire d'Olympie, dans le sud de la Grèce, comme le veut la tradition, et a parcouru 5000 kilomètres à travers le pays, souligne le magazine L'Ifo. Samedi, la flamme olympique embarquera à bord du Bélème, mythique trois-mâts français amarré au port du Pirée à côté d'Athènes, écrit le quotidien Tanea. Destination Marseille, ville depuis laquelle la flamme olympique entamera un voyage en France avant d'arriver à Paris le 26 juillet, s'enthousiasme le journal Ikathemerini.
Nous sommes maintenant en Belgique avec Laura Vallnerberg à Bruxelles pour Europe 1. Laura, les gros titres des journaux belges.
Les demandeurs d'asile doivent désormais contribuer à leur accueil en Belgique. Un projet de loi vient d'être adopté, nous apprend l'agence de presse belga. Le montant que les demandeurs d'asile qui travaillent devront verser dépendra de leurs revenus, explique le journal Le Soir. Mais aucune contribution ne sera demandée en dessous de 265 euros par mois, précise le quotidien L'Écho. Pour les autres demandeurs d'asile, une contribution de 35% sera demandée. La Libre Belgique ajoute, la contribution ne sera pas prélevée à la source. Le demandeur d'asile devra donc payer lui-même le montant et déclarer ses revenus au centre d'accueil, mais s'il ne s'exécute pas, il devra s'acquitter d'une cotisation plus élevée et pourrait même être exclu. Cette mesure existe depuis 2011, rappelle le journal Echo, mais sa mise en œuvre s'était longtemps heurtée à des obstacles politiques et juridiques.
On part enfin en Irlande. Clémence Pénard, vous êtes à Dublin pour Europe 1. Alors qu'est-ce qui fait la une de la presse en Irlande ?
Eh bien, le héros Deliveroo, comme le surnomme The Irish Examiner, se présente aux prochaines élections locales à Dublin. Caillou Benicio, livreur brésilien, était intervenu lors de l'attaque au couteau devant une école en novembre dernier, rappelle The Irish Times. Il avait utilisé son casque de moto pour frapper l'homme qui avait blessé une femme et trois enfants dans le nord de la capitale avant que la police ne maîtrise l'assaillant. Un vrai héros irlandais, selon l'ancien Premier ministre Léo Varadkar, quelle que soit sa nationalité, citait à l'époque la RTE. Benicio, candidat pour le parti de centre-droit du Fianna Fáil, a déclaré qu'entrer en politique lui permettrait de devenir le porte-parole des immigrés. Selon The Independent, plus de 70 000 Brésiliens vivent aujourd'hui en Irlande.
Merci Clémence Pénard. C'était la revue de presse internationale sur Europe 1.
Europe 1, bonjour, il est 5h12.
Et dans quelques minutes, à 5h20, Omblin, on retrouve les initiatives en France.
Oui, avec ce matin la Nef qui se présente comme un établissement bancaire éthique. On verra ce que c'est.
Europe 1.
D'abord à 5h12, votre histoire dingue, Anissa Haddadi. Alors, la star de votre histoire ce matin, c'est un burger.
Oui.
Mais un burger qui ne va pas forcément nous mettre en appétit. Vous allez nous raconter.
Bah, si vous êtes déjà au petit déjeuner là, oui. 5h12, faites une pause.
Déjà, c'est pas l'heure du burger.
Non, déjà, c'est pas l'heure du burger, à part peut-être pour ceux qui finissent de travailler,
aussi,
qui sont sur le chemin du retour.
Bien sûr, et bon appétit.
Qui auraient envie d'un burger. Mais faites une pause quand même pendant cette histoire, parce que je risque de vous couper un peu la appétit. On part direction l'Islande. L'Islande est un pays dans lequel deux chaînes de restauration rapide ont complètement disparu. Parmi ces deux enseignes, la plus connue est celle tenue par le clown Ronald, ah oui. On le salue, et l'autre, c'est le roi du burger. Si vous êtes bon en anglais, vous aurez compris. En 2009, oui. En 2009, l'Islande donc connaît une très grosse crise économique, un peu comme une grande partie de l'Europe. Hein. Vous savez, c'était la crise des subprimes, ça parle des États-Unis, ça touche l'Europe. Bon. En 2009, l'Islande est touchée par cette crise économique assez importante devant l'effondrement de la consommation. L'enseigne américaine, avec le clown, décide de quitter définitivement le pays et de fermer tous ces restaurants.
Tous ces restaurants.
Et c'est cette année-là, en 2009, il y a 15 ans, donc, que le dernier restaurant de burger américain ferme ses portes. Mais avant cet événement qui a étonné les Islandais, alors je vais essayer de le dire comme il faut, mais Jortur Smarason.
Bon, okay.
Je pense que ça ne se dit pas comme ça. Il y a des accents et tout. Je pense que ça ne se dit pas comme ça.
Il faut rouler un peu les R, tout ça.
voilà, on le salue. Il est anthropologue et il a décidé, le jour de la fermeture du dernier restaurant d'acheter un menu. Et il l'a mis sous cloche de verre. Il a acheté un burger et une part de frites. À votre avis, maintenant que ce burger et ce cornet de frites sont sous la cloche depuis 15 ans, dans quel état se trouve-t-il?
Ils sont fossilisés, oui.
Dur, non? Moisi?
Eh bien, c'est là que je vais que ce que je vais vous raconter ce matin va peut-être vous faire passer l'envie de manger des burgers à la chaîne, puisque 15 ans plus tard, rien n'a bougé.
C'est-à-dire
le burger et les frites sont en parfait état. On dirait qu'il les a achetés hier. Comme le jour où il les a achetés. Non, non, mais je vous jure, un anthropologue les a achetés. Il les a mis dans cette cloche sous verre.
Visuellement.
Alors, visuellement, mais même quand vous les touchez. Alors, faut pas les manger, attention.
C'est ça.
Attendez,
juste l'aspect.
Je suis pas en train de vous dire que banco, allez-y, vous pouvez garder un burger 15 ans, pas du tout. Mais en tout cas, sur ce burger et ses frites, il n'y a aucune trace d'humidité, ni aucune trace de décomposition, ni aucune trace de moisissure.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était déjà tout sec.
Alors, ces burgers ne moisissent
pas. À la première seconde.
Un scientifique qui est professeur d'université en Islande a essayé d'expliquer le phénomène. Pourquoi ça moisit pas? Eh ben, tout simplement parce qu'un aliment qui doit moisir, il doit avoir de l'eau dedans. La moisissure, elle se fait surtout dans une cloche en verre, en plus. Vous imaginez bien que normalement, la moisissure se fait de l'eau.
Oui, c'est un écosystème.
Sauf que dans les pains à burger, normalement, il y a de l'eau.
Non, une cloche posée comme ça, pas dans un caisson hermétique.
Non, c'est une petite boîte en verre. Mm-hmm. Ah, c'est une petite boîte en verre, toute simple. Il n'y a rien de scientifique, il n'y a pas de stérilisation.
Il n'a pas fait de vide, quoi.
Non, pas du tout. C'est une boîte en verre, toute simple. Et donc, le scientifique a expliqué que normalement, il faut qu'il y ait de l'humidité dans les aliments. C'est pour ça qu'ils moisissent. C'est pour ça que parfois, vous avez de la petite mousse, que ça devient bleu, et qu'il faut plus manger, que ça moisit. Là, donc, visiblement, la conclusion est qu'il n'y aurait même pas d'eau dans le pain à burger. Est-ce qu'on serait pas en train de manger du plastique, Alexandre
Lombline? Le pain à burger, et ce n'est pas du pain.
Non, ce n'est pas du pain.
On dit pain à burger, mais ce n'est pas du pain.
Normalement, le pain, c'est fait avec de l'eau, de la farine et de la levure. Bon, bah là, visiblement, il n'y a pas d'eau. Alors, il y avait déjà une légende, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. On parlait de cette marque au clown avec Ronald. Et on disait, il y avait une légende qui disait que la nourriture ne moisissait pas. C'est aussi pour ça que cet anthropologue, il a fait ça. Et bon, la preuve en est que la nourriture ne moisit pas. J'ai l'impression, Alexandre Omblin, que cette histoire vous intéresse et vous passionne.
Moi, je vais me les... Vous savez quoi, j'adore les burgers, mais je vais me les faire moi-même. Hein.
Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Absolument. J'ai l'impression aussi que vous avez envie de voir physiquement quand même à quoi il ressemble, burger et ses frites. Eh bien, vous pouvez, parce que l'homme qui a récupéré ce tout dernier menu en 2009 l'a aujourd'hui confié à un musée en Islande.
Décidément.
Donc, vous pouvez aller le voir, vous pouvez regarder. Ah, bah, très beau burger,
de
très belle frite. Voilà.
Ouais.
Mais surtout, vous pouvez suivre son évolution minute par minute, car sous cette cloche de verre, en plus des aliments, une caméra a été installée il y a 15 ans en 2009.
Ah, pour faire une espèce de time-lapse
à longue distance, minute par minute comment évolue le burger. Bon, n'y allez pas toutes les minutes parce que vous allez perdre du temps, il ne se passe rien vu que le burger ne bouge pas. Il y a une vidéo de la non-décomposition de ce menu. Alors vous pouvez y aller sur snowtrouse.com. Vous verrez que les emballages s'abîment beaucoup plus vite que les aliments, hein, puisque l'emballage de frites a perdu toute sa couleur. 400 000 personnes se connectent chaque jour sur le site pour aller voir le burger.
Allez, on y va, on va voir ça.
Il y en aura 402 000.
Voilà.
Merci Anissa Dadi.
Merci Anissa, on vous retrouve juste avant le journal de 5h30 pour la météo.
Europe 1, bonjour. 5h, 7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Europe 1, 5h17.
Le journal permanent, Fanny Marceau.
Pas un accident, mais un geste de désespoir. Kenji Girac a finalement confié aux enquêteurs que sa blessure par balle lundi matin dans sa caravane était une simulation de suicide pour dissuader sa femme de le quitter. Le chanteur avait initialement affirmé qu'il s'agissait d'un accident. L'enquête va être abandonnée. Gérald Darmanin favorable aux couvre-feux municipaux pour les moins de 13 ans, à l'instar de celui de Béziers ou de Nice qui entrera en vigueur le mois prochain. Le ministre de l'Intérieur l'a confirmé hier soir lors d'une interview télévisée. Les mineurs, ça doit être chez eux, chez leurs parents, a-t-il martelé. Le coup près est attendu ce soir. Les agences de notation Fitch et Moody's doivent réévaluer la crédibilité financière de la France. Une dégradation de la note, si elle est raisonnable, n'aurait pas beaucoup d'impact sur les marchés, d'autant que la France, même dans le rouge, reste une place qui séduit les investisseurs. Aya Nakamura, de nouveau reine des flammes. Les trophées du rap avaient lieu hier soir au Théâtre du Châtelet à Paris. La chanteuse récemment au cœur d'une polémique après que son nom a été cité pour interpréter du Piaf lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques a été sacrée hier soir artiste féminine de l'année.
Europe. Europe 1.
Merci Fanny Marceau. À suivre juste avant le journal de 5h30 sur Europe 1, un bon réveil en musique. On va écouter qui ce matin, Ombline?
Le groupe Texas, comme vous ne l'avez jamais entendu. C'est un extrait du nouvel album composé des grands succès des Écossais, mais totalement revisité.
Bienvenue si vous nous rejoignez avec les initiatives en France à 5h19 dans Europe 1 Bonjour. On vous présente ce matin une banque qui s'est donnée pour mission de financer des projets écologiques, d'utilité sociale et culturelle.
Bonjour Bernard Orenbeek.
Bonjour.
Vous êtes le président du directoire de la NEF. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. La NEF a été créée à la toute fin de l'année 1986. Alors vous vous présentez comme une banque éthique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, c'est-à-dire ?
Alors, on est vers la banque éthique parce que le mot banque est hyper protégé. Donc, on est une coopérative bancaire, c'est-à-dire qu'on a vraiment des activités bancaires. On propose d'épargner, on a des livrets d'épargne, des comptes d'épargne. Et c'est notre engagement, nous, c'est d'utiliser cet argent-là uniquement pour des projets qui ont un impact positif pour la société française aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on place son argent à la banque, il a sa vie, il a son chemin, il fait son chemin. On l'a bien vu au moment de la crise bancaire, on découvrait tout d'un coup comment on utilisait notre argent. Et donc ce chemin-là, nous, on s'engage à ce qu'il soit totalement transparent. C'est-à-dire que tous nos épargnants, ils savent ce qu'on fait avec leur argent. Et ce qu'on fait, c'est du prêt, du crédit, à des entreprises ou à des associations, mais toujours qui ont un impact positif sur le plan environnemental, sur le plan social ou sur le plan culturel. Ça veut dire une épargne décarbonée, on peut un peu dire ça. C'est une épargne qui fait attention à l'impact qu'on peut avoir sur la société, tant dans l'environnement que dans la justice sociale et dans l'attention aux citoyens.
Votre coopérative bancaire a plus de 30 ans. Vous êtes le pionnier en France de cette finance éthique ?
Ah oui, on est vraiment les pionniers, on est regroupés dans une fédération européenne, des banques éthiques et alternatives, mais on n'est pas très nombreux, on est 27 je crois sur l'ensemble de l'Europe aujourd'hui, comme membres de la FEBA. Effectivement, parce que être une banque éthique, ça signifie qu'on sait d'où l'argent vient et on sait où il va. Et donc on maîtrise l'entièreté de la filière de l'argent. Et donc il n'y a pas de loup possible, on sait que cet argent, il n'a pas des origines douteuses et on sait surtout comment on va l'utiliser.
La NEF est un établissement bancaire qui appartient à ses sociétaires. C'est quoi la différence avec un actionnaire ?
Ah, c'est qu'en fait, on fait société, on fait coopérative. Ça veut dire que là, nous, on est près de 50 000 personnes qui sont tous des citoyens qui ont envie de faire une société ensemble. On est à la fois dans la volonté d'avoir cet impact positif et en même temps, on co-dirige quelque part, même si évidemment on délègue ça à des gens dont je suis, dans le concret. Mais je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup des surprofits, etc. Eh bien, nous, on va rentrer dans une période probablement de bénéfices et donc on a organisé toute une consultation de nos sociétaires pour savoir mais qu'est-ce qu'on va faire avec les bénéfices quand il y en a. On a une plateforme internet sur laquelle tous nos sociétaires ont pu s'exprimer, mettre des avis. On a eu des rencontres dans les régions en France. Et finalement, 25 sociétaires ont été tirés au sort pour rédiger sur cette base-là une motion qui sera votée à l'Assemblée Générale. Et vous savez quoi ? Ils ont décidé que ce n'était pas eux, en tant que sociétaires, qui devaient profiter du bénéfice, mais qu'il fallait que la NEF ait un impact encore plus positif, encore plus fort pour la société.
On parle de la coopérative bancaire, la NEF, sur Europe 1, avec vous, Bernard Orenbeek. Qu'est-ce que cela change d'être client à la NEF par rapport à une banque classique ?
Oui, ça change qu'on sait comment va l'argent, on sait ce qu'il devient, on sait ce qu'il fait. Nous, on édite chaque année la liste de tous les projets qu'on a soutenus par le crédit. Ça veut dire qu'on peut voir concrètement tous les projets, la façon dont ça se distribue dans le secteur biologique, dans l'énergie renouvelable, dans toutes sortes d'entreprises avec un impact positif, même dans des secteurs aussi décriés que la mode comme pour le moment. On a toute une série d'entreprises, nous, qui travaillent à essayer d'avoir une mode la plus décarbonée possible, la plus respectueuse possible, et qui trouve des méthodes pour fonctionner autrement.
Cela veut dire que vous n'avez jamais investi un euro dans un projet, par exemple, qui soutiendrait l'énergie fossile ?
Ah non, jamais. Non, je pense qu'on doit être probablement le seul établissement financier de n'est jamais dans le fossile. Par contre, on est dans l'éolien, on est dans le solaire, on est dans la biométhanisation, on est dans toutes sortes d'expérimentations d'énergie renouvelable.
La France est le pays des géants bancaires européens. Quelles sont les ambitions de la NEF au milieu de ces géants, vraiment vous distinguez.
Oui, effectivement, on est dans un monde où il y a en gros 5 grands groupes bancaires qui se partagent l'essentiel. Nous, il a tendance à être celle-là, d'être au regroupement, et nous, on est à l'inverse. C'est-à-dire qu'on a lancé une opération qui s'appelle le Big Bank. Donc, le petit jeu de mots, évidemment, ne veut pas dire qu'on veut être le plus grand, mais surtout qu'on veut repenser la banque, la penser autrement. Et donc, nous, on pense qu'on a un rôle à jouer et que le système de concentration aujourd'hui empêche la différenciation, empêche de développer des systèmes. Donc, nous avons demandé à la Banque de France d'être autonome par rapport à ces banques-là et avoir un agrément autonome en tant qu'acteur bancaire. Donc là, maintenant, on attend une bonne nouvelle. D'ici peu, on espère, parce que je crois qu'on réunit maintenant toutes les conditions pour pouvoir avancer. Oui. Mais effectivement, on sera totalement autonome de ces grands groupes financiers. Et ça veut dire que nous aurons la capacité d'inventer de nouvelles manières de fonctionner.
Merci beaucoup Bernard Orenbeek. Je rappelle que vous êtes le président du directoire de la coopérative bancaire, la NEF. Je vous cite, engagé pour la banque éthique et pour une finance plus saine. Bonne journée.
Merci beaucoup et bonne journée à vous.
Europe 1, bonjour.
5h-7h,
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Bienvenue sur Europe 1, 5h25, votre week-end approche, une petite envie de cuisiner peut-être, ou en tout cas de bien manger. Le week-end, samedi et dimanche, Europe 1 vous donne rendez-vous à 11h pour 1h30 de découverte et de gourmandise, Omblin.
Oui, demain, ne manquez pas la table des bons vivants. Laurent Mariotte reviendra sur le succès des concours de cuisine avec la chef doublement étoilée Stéphanie Lekelec.
Et puis dimanche, balade en France, William Lémergie vous emmène dans l'Essonne, à Milly-la-Forêt, vous allez visiter la maison de Jean Cocteau.
Par avance, bon week-end à l'écoute d'Europe 1.
Dans quelques minutes, le journal de 5h30, tout de suite, Omblin, on écoute Texas.
Et la voix de la chanteuse Charlene Spitry au premier plan, elle reprend Would I Lie to You de Charlie Eddy.
place dans un appareil qu'on ne connaît pas, dans une orchestration différente par rapport à d'habitude et accompagnée à l'orgue électrique par le pianiste américain Spooner Oldham, une reprise de Would I Lie to You de Charlie Eddy. C'est un extrait du nouvel album de Texas, The Muscle Shoals Sessions, enregistré en Alabama sur les terres du blues dans les studios de Muscle Shoals.
Bienvenue sur Europe 1, vendredi matin, dans la demi-heure qui vient, la prescription culture, 6h-10, un classique de la littérature comme chaque semaine, Ombline.
Oui, Nicolas Caro a choisi le talentueux Monsieur Ripley de Patricia Highsmith.
Et puis musique tout à l'heure avec vous.
Oui, avec un documentaire événement et on va l'adorer, un documentaire sur le groupe Bon Jovi. Avant cela, dans un quart d'heure, votre invité Alexandre Lemaire.
Alors vous attendez avec impatience sans doute les ponts de mai, une petite escapade peut-être, mais comment éviter la foule? Comment éviter les ruelles noires de monde, les files d'attente interminables? En fait, comment lutter contre le surtourisme? On en entend beaucoup parler. Venise fait maintenant payer 5 euros l'entrée dans sa ville. D'autres sites, y compris en France, appliquent des quotas, des plafonds de visiteurs journaliers. On va parler de toutes ces solutions avec Didier Arino du cabinet ProTourisme à 6h-20 après le journal sur Europe 1. Côté ciel, Anissa Dadi, les nouvelles, c'est de la pluie, des averses et des orages pour terminer cette semaine.
C'est pas mal, un petit cocktail de fin de semaine.
Une carte bien perturbée encore.
Ah oui, on a un temps vraiment qui se dégrade partout aujourd'hui. Alors ce matin, les principales pluies se trouvent entre le Languedoc et le Grand Est en passant par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors là, il pleut pas mal. Et puis, on a pas mal de pluie également entre la Bretagne et les Hauts-de-France en passant par les côtes de la Manche. De la pluie aussi le long de la façade atlantique. Ailleurs, bon, on a quelques éclaircies en région parisienne, en Champagne-Ardenne, sur le centre-Val de Loire. Mais cet après-midi, les éclaircies vont très vite alterner avec des averses. Bref, il y aura de la pluie pour tout le monde aujourd'hui, sans exception. La bonne nouvelle, c'est que les températures sont en hausse.
Enfin !
Aujourd'hui, il fait plus doux. Déjà, ce matin, on n'a plus de gelée, à partir de 4 degrés. Et cet après-midi, 10 à 19 partout.
Merci Anissa Dadi. Bon réveil avec Europe 1, 5h30.
Europe 1, bonjour.
5h-7h.
Alexandre Lemaire, Ombline Roche.
La France, championne du monde des charges patronales les plus lourdes. Le rapport de l'OCDE est sans appel. Pour 100 euros de hausse de salaire, l'employeur en dépense pas loin de 600. On vous explique tout dans un instant. L'affaire Kenji Girac, le chanteur aurait voulu simuler un suicide après un différend avec sa compagne. Vous allez entendre le procureur de la République. L'attention toujours au Proche-Orient, bombardement israélien sur la ville de Rafah, Tsahal, toujours déterminé à lancer son offensive sur cette ville du sud de la bande de Gaza. Europe 1 à Marigné, en Haute-Savoie. C'est là, dans ce village, qu'a été interpellé un adolescent de 16 ans qui projetait un attentat pendant les Jeux Olympiques. Les habitants de ce village, littéralement abasourdis. Le journal de 5h30, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. On n'est pas champion du monde tous les jours, sauf que ce titre-là, on ne sait pas très bien comment le célébrer. Le dernier rapport de l'OCDE sur les impôts et salaires est formel. La France reste la championne toute catégorie des charges patronales. La politique d'allègement, notamment sur les bas salaires, n'y change rien. Le coût de la main-d'œuvre est plus élevé chez nous qu'ailleurs, Barthélémy Philippe.
Oui, malgré les récentes politiques d'allègement de charges, les cotisations patronales pèsent toujours très lourd en France. Un peu plus de 26% des coûts de main-d'œuvre supportés par les entreprises. C'est deux fois supérieur à la moyenne de l'OCDE qui tourne autour de 13% et beaucoup plus élevé que chez nos voisins européens. Par exemple, en Allemagne et au Royaume-Uni, les charges patronales ne représentent respectivement que 16 et 10% des coûts de main-d'œuvre. Évidemment, le poids de ces charges freine la compétitivité française. Alexander Pick est membre de la division fiscalité de l'OCDE.
Le coût de travail, ça reste très élevé en comparaison avec la plupart des autres pays. Ceci dit, il y avait une petite baisse en 2023.
La pression fiscale sur le revenu est l'une des plus fortes au monde. Au total, les charges patronales, salariales et l'impôt sur le revenu représentent près de 47% du coût de la main-d'œuvre. En France, un employé au salaire moyen, environ 2600 euros net par mois, coûte plus de 6000 euros à son employeur.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. La France, dans l'attente du verdict des agences de notation, Fitch et Moody's vont évaluer la qualité de la dette française. Une dégradation ferait surtout mauvais effet sur le plan politique. Elle aurait à ce stade peu de conséquences sur la capacité de l'État français à s'endetter sur les marchés financiers.
Un rebondissement, Christophe, dans l'affaire Kenji Girac. Le chanteur aurait voulu en réalité simuler un suicide pour effrayer sa compagne.
Et c'est en tout cas l'hypothèse privilégiée par le procureur de la République de Mont-de-Marsan. Très longue conférence de presse du magistrat hier, prise de parole d'une heure et demie. Une enquête qui s'est heurtée au départ à une forme d'omerta, mais l'audition du chanteur a permis de démêler les fils. C'est ce qu'a expliqué le procureur Olivier Janson.
Il ne dit plus que le coup est parti involontairement. En quelque sorte, il a simulé un suicide, dit-il. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur comprenait des munitions ou pas. Il le croyait vide. « J'ai fait ça parce que j'ai eu peur. J'étais tout seul. Ma famille n'était pas là. Il faut comprendre son père, sa mère, ses sœurs. Quand j'ai vu qu'elle allait partir, j'ai eu peur. » Il précise qu'il n'avait jusqu'alors pas donné cette version à sa famille et qu'il leur avait dit que le coup était parti tout seul. « J'ai pris l'arme avec la main gauche par le canon. Je l'ai amené à ma main droite. Je tenais le pistolet avec ma main droite et j'ai orienté le canon vers ma poitrine en me tenant avec ma main gauche pour faciliter le mouvement. Puis j'ai tiré le chien en arrière. En tenant l'arme, j'ai un peu basculé vers l'avant. Je voulais faire entendre le bruit de la détente à Soraya. Je voulais qu'elle me dise d'arrêter et qu'elle ne parte pas. Il précisera par la suite, j'étais sous un point de ne pas savoir trop quoi faire. J'ai perdu le contrôle, mais j'étais en état de comprendre ce que me disait Soraya, qu'il qualifie au passage de femme de sa vie.
Le procureur de la République de Mont-de-Marsan, Olivier Janson, au micro de Stéphane Place.
Nous partons maintenant en Haute-Savoie à 5h34 sur Europe 1. Stupéfaction dans le village de Marigné après l'interpellation d'un jeune de 16 ans soupçonné de préparer un attentat.
Et l'adolescent était déjà fiché S et donc suivi par les services de l'antiterrorisme, trahi par ses contacts et ses messages échangés sur la plateforme Telegram. Il était à la recherche d'explosifs avec un objectif en tête, un attentat à Paris pendant les Jeux Olympiques. Sidération et incompréhension des habitants de Marigné. Tous décrivent un garçon sans histoire. Reportage Noémie Loisel, correspondante d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes.
Sur les hauteurs de Marigné, une zone pavillonnaire proprette, au jardin bien entretenu. Impossible pour les habitants d'envisager qu'un jeune d'ici ait préparé un attentat.
On a vu à travers la haie, ouais, des gens, trois personnes cagoulées. Honnêtement, on n'en serait pas douté, non. On le croisait le soir, toujours un bonjour, respectueux.
Respectueux, très gentil, assez timide et sans histoire, le jeune garçon joue souvent football dans le quartier, racontent les habitants. Rien ne pouvait laisser croire à une possible radicalisation, explique l'un de ses anciens partenaires de football, qui préfère rester anonyme pour des raisons de voisinage.
On jouait au foot tous ensemble, on faisait des cache-cache, super gentil, très poli, pas de signe de violence, rien du tout, vraiment un super gamin, très gentil, je vois pas faire de telles choses.
Une famille, on ne peut plus, normale, de quatre enfants et des parents sérieux, décrit une autre voisine.
Voilà, c'est une famille qui est tellement calme, tellement gentille, tellement ouverte, en fait, que pour moi, il n'y a aucun moment eu de la radicalisation ou quoi que ce soit, quoi.
Placé en garde à vue, l'adolescent a été suivi pour radicalisation. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont d'ailleurs retrouvé un serment d'allégeance à Daesh. Marigné, Noémie Loisel, Europe 1.
Retour à la normale ce matin dans les aéroports français après la grosse pagaille d'hier.
Le jeudi noir annoncé s'est bien produit malgré l'annulation de la grève des contrôleurs aériens. Plusieurs centaines d'avions cloués au sol et des aéroports parfois désertés. Après les aiguilleurs, les pilotes. Pas de grève, mais une manifestation à 11h ce matin devant le terminal 2E de Roissy à l'appel du SNPL. Le principal syndicat de pilotes dénonce la place de plus en plus importante prise par l'intelligence artificielle dans les cockpits et donc les menaces sur l'emploi. On choisit ses copains, mais rarement sa famille, dit le chanteur Renaud. On peut aussi choisir son nom. Possibilité offerte par la loi depuis 2 ans. Près de 150 000 Français l'ont fait. Démarche effectuée en majorité par les 18-29 ans, selon l'INSEE.
Voilà quelqu'un qui n'a pas changé de nom, mais plutôt de voix. Ludovic Duet, volleyeur professionnel, capitaine de l'équipe de Saint-Nazaire, va entrer dans les ordres, Christophe.
Et peut-être le signe d'une envie de spiritualité retrouvée chez nos semblables. On évoquait sur Europe 1 la hausse du nombre de baptêmes. Ludovic Duet va donc plus loin et sera bientôt prêtre. Ce joueur professionnel de haut niveau n'a aucune appréhension à l'idée d'entamer une nouvelle vie. Reportage Sandrine Prioul, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est.
Certains m'appellent le prêtre dans le vestiaire.
Exit les ambiances survoltées des parquets de volley-ball pour celui qui vient de décider de se consacrer à sa spiritualité.
J'ai un attrait qui pour moi vient du Seigneur et dans ma foi, quand je me déshabille et qu'il y a ma croix au-dessus de mon t-shirt, le raccourci est vite vu dans le vestiaire. Et ben le short et le ballon, ils seront à la récré quand j'aurai des récrés. Il faut le tenter. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai envie de me lancer. Puis ça me donnera justement des éléments de réponse s'il y a un manque qui est trop fort ou pas.
Ludovic Duet, libéraux d'1m92, qui sera d'ici quelques semaines dans un monastère au milieu des chanoines d'Augustin. Objectif, l'ordination.
Il va y avoir des renoncements, mais c'est une vocation. Et l'image qu'on en a n'est pas forcément la réalité. J'ai été impressionné et j'aime énormément la vie des chanoines. Les chanoines sont très frais et dynamiques, et tout sauf austère justement.
Le futur prêtre semble enthousiaste. Une vie monastique dans un cadre réglé et largement masculin. Je connais déjà, sourit le capitaine de Saint-Nazaire Volleyball.
Sandrine Prioul, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Ouest. Tiens, le sport toujours, le 31e journée de Ligue 1, c'est du football bien sûr. Ce sera ce week-end avec un Montpellier-Nantes en guise de hors-d'œuvre ce soir. D'envoi à 21h. Réglez vos comptes.
Merci Christophe Lamarre. Bienvenue si vous nous rejoignez ce vendredi matin sur Europe 1, 5h38. Tous les matins, une page d'histoire dans deux minutes. C'est le jour où avec les archives d'Europe 1.
Oui, Laure d'Autriche reviendra sur les débuts de la télé-réalité avec le lancement de l'émission Loft Story le 26 avril 2001. Je suis sûre que vous savez où vous étiez au printemps 2001 quand Loft a été
quasiment
lancé.
Quasiment, oui. Mais je crois que j'étais devant ma télé.
Moi aussi.
Bon réveil à tous. D'abord sur Europe 1, les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Alexandre, il y aura un Quintet Plus en nocturne ce soir à Vincennes, une course aux trois attelés qui réunira 17 trotteurs âgés de 7 à 10 ans, répartis sur deux poteaux différents de départ, 2850 et 2875 mètres. Et il est légitime d'accorder un très large crédit au numéro 5, Être d'Ourville, idéalement placé en tête et dont la parfaite condition physique actuelle ne fait aucun doute. J'en veux pour preuve sa victoire obtenue dans un Quintet similaire le 22 mars à Vincennes sur le parcours qui nous intéresse. On lui opposera les numéros 1, Hardy Crown, le moins riche mais pas le moins doué et qui alterne désormais avec réussite les deux spécialités, le monté et l'attelé. 11, Jim's Duplessis, à ne surtout pas condamner sur ses trois dernières sorties en demi-teinte et pour lequel son entraîneur Philippe Boutin en attend une réhabilitation. 12, Golteria, doué et qui vient de jouer de malheur pour ce retour à Vincennes. Et 10, Harvest de Bullière, désormais revenu à son meilleur niveau, ce qui doit suffire ici pour accrocher une place à une cote spéculative. Enfin, les numéros 3, Galion, 14, Olerolov et 4 gagneurs compléteront ma sélection. Mon pronostic, 5, 1, 11, 12, 10, 3, 14 et 4.
On retrouve votre pronostic dès maintenant sur l'appli Europe 1 et sur europe1.fr. Merci Thierry Léger.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, weekend.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur. C'est l'espoir.
Europe 1, 6h20, le jour où l'histoire raconte à travers les archives d'Europe 1.
Bonjour, Laure d'Autriche.
Bonjour à tous.
C'était aussi un 26 avril, ce jour de 2001, sous nos yeux de téléspectateurs ébahis, la toute première saison de télé-réalité française. Elle s'appelle Love Story. Alors, on y voit à l'époque des candidats qui font leur entrée comme ça dans un studio de télé aux allures de loft, et en réalité de forteresse, hein, truffée de caméras à l'intérieur. Love Story a marqué l'histoire des médias en France, Laure.
Oui, pour la première fois, une dizaine de jeunes allaient cohabiter sous l'œil des caméras pendant 2 mois et demi, isolés du monde extérieur, et les téléspectateurs doivent alors éliminer chaque semaine un candidat.
La France n'y a donc pas échappé. À l'image des Big Brother et autres survivors venus des États-Unis, M6 lance ce soir sa Love Story. Le bon vieux tourné-manège disparu de la télé il y a quelques années semble maintenant bien désuet.
L'émission devient dès la première semaine un énorme succès. Les lofters, comme on les appelle, sont suivis par 5 millions de téléspectateurs. À l'époque, en 2001, le débat se cristallise autour d'une question. Est-ce ou non du voyeurisme ? Témoignage sur Europe 1.
Moi, j'aime énormément. Je l'enregistre quand je ne suis pas chez moi pour l'instant. Et je trouve ça très sympathique.
Mais moi, je trouve que c'est quand même une vaste escroquerie. Et c'est carrément... Mais alors, soft.
Vous aimeriez que ce soit plus hard ?
Un peu plus érotique.
Et effectivement, à l'époque, c'est aussi un sujet. Le présentateur Benjamin Castaldi se défend sur Europe 1. Ce n'est pas une émission à caractère sexuel.
C'est un programme familial avant tout. C'est plus proche de la sitcom classique que du film X. C'est pas le propos de l'émission. Le propos de l'émission, c'est de voir comment se tissent des liens entre des jeunes qui ont entre 18 et 28 ans.
Qui sera le couple idéal ? C'est vous qui décidez.
Face aux critiques aussi sur la faible qualité de l'émission en termes de contenu, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, Ségolène Royal, relativise.
Il ne faudrait pas non plus s'acharner sur une émission populaire, alors que d'autres, parfois, sont beaucoup plus contestables.
Et à la fin, c'est l'une des jeunes stars du programme, Loana, danseuse de cabaret dans la vie, qui sort gagnante.
Vous êtes quand même une star, Loana.
Oui, bah, j'ai encore du mal à m'y faire, alors. Moi, ça me fait énormément plaisir. Après, je ne sais pas pourquoi. Hein.
Si vous n'aviez pas été un peu fauché, un peu paumé, est-ce que vous pensez que vous auriez eu cette notoriété fulgurante ?
Ben, j'espère que que c'est pas que à cause de ça.
Le succès est tel qu'elle a sorti du loft les vainqueurs, dont Loana, ont remonté en voiture les Champs-Élysées, salué leurs fans dans une ambiance presque de finale de Coupe du Monde.
Mais oui, et Love Story, quoi qu'on en dise, a bien installé la télé-réalité en France, dans le paysage audiovisuel français. Merci Laure d'Autriche, réalisation sonore Sébastien Guidis. On vous retrouve lundi, Laure, pour le jour où sur Europe 1.
Et on joue tout de suite avec le jour où vous essayez de gagner encore aujourd'hui. Attention, c'est le dernier jour. Hein.
Dernier jour
pour essayer de remporter cette croisière magnifique de 5 jours avec CroisiEurope pour découvrir les trésors vinicoles du sud-ouest, direction Blaye, Libourne, Saint-Émilion. Une croisière à la découverte du Médoc et à bord, cuisine raffinée, boisson, animation, visite guidée, excursion. On a le pack complet pour vous, croisiEurope.com pour tous les détails.
Il vous reste à répondre à la question du jour. Qui est la gagnante de la première édition de Love Story? Réponse A, Loana. Réponse B, Delphine.
Vous envoyez par SMS croisière au 739-21, 2x75 centimes hors coût du message et vous répondez à la question.
Allez, bonne chance à tous. Dans quelques minutes à présent, votre rendez-vous culture sur Europe 1, l'actualité musicale, comme chaque vendredi, on bine rush.
Oui, avec un nouveau documentaire en 4 parties consacré au groupe Bon Jovi. Bon réveil sur Europe 1.
5h-7h.
Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire, on bine rush.
Il est 6h moins le quart.
Comment lutter contre le surtourisme alors que les vacances d'été arrivent à grands pas? Des villes, des sites touristiques réfléchissent à faire payer les touristes pour pouvoir accéder aux sites. C'est désormais chose faite d'ailleurs dans la ville de Venise. La cité des Doges vient tout juste de mettre en place un droit d'entrée à 5 euros.
Et vous en parlez avec votre invité, Alexandre sur Europe 1. Didier Arino est le directeur général du cabinet de conseil Prototourisme.
Bonjour Didier Arino.
Bonjour.
30 millions de touristes se pressent chaque année dans le centre de Venise. Alors cette ville est la première dans le monde à inaugurer ce ticket d'entrée dans la ville. 5 euros pour les visiteurs d'un jour. Est-ce que cette mesure, diriez-vous, c'est la bonne pour lutter contre le surtourisme?
Alors c'est une première mesure, car 5 euros, ça ne dissuadera pas
Mais
ceux
non.
qui veulent découvrir Venise, sachant que leur investissement pour aller visiter la ville est bien plus important, et
bien
c'est
supérieur.
Pas ces 5 euros qui vont les dissuader de venir visiter la ville. De
Alors plus, ça sert à quoi?
Cette mesure va s'appliquer seulement 30 jours dans l'année, pour les pics de fréquentation. Donc il faudrait, pour qu'elle soit véritablement efficace et diminuer la fréquentation à Venise, d'abord que le montant soit beaucoup plus élevé, et ensuite que ce soit généralisé sur l'ensemble de l'année. Cette mesure, elle aura comme impact d'abord de remplir un peu plus les caisses de la ville de Venise, qui en a certainement besoin, ne serait-ce que pour investir dans la transition, pour investir aussi, pourquoi pas, dans des hébergements qui permettraient de refaire venir une population résidente à Venise, et puis résoudre les grands défis de la montée des eaux avec des travaux d'infrastructure importants. Mais c'est pas ces 5 euros qui vont changer la donne, c'est plus symbolique
effectivement.
Qu'autre chose.
Effectivement, alors là, de ce point de vue-là, Venise, il va un petit peu sur la pointe des pieds, en tout cas installe un précédent. Il y a une méthode plus radicale qui existe aussi par ailleurs, c'est la méthode des quotas, hein, des plafonds de visiteurs. Ça existe en France, dans le parc des Calanques par exemple, 400 visiteurs par jour, je crois, par exemple, dans la célèbre Calanque de Sugiton, Didier Arino. Là, c'est un plafond journalier à ne pas dépasser.
Oui, alors comme pour les calanques, on peut avoir un plafond journalier à ne pas dépasser. D'ailleurs, on pourrait généraliser cette mesure dans les espaces sensibles et qui sont impactés par une surfréquentation touristique avec des conséquences sur les milieux. Mais on peut aussi imaginer des systèmes de paiement dans des endroits comme le Mont-Saint-Michel, pourquoi pas. L'important, c'est que face à des mesures contraignantes, c'est qu'il puisse y avoir beaucoup plus de services. Vous savez, quelque part, à Paris, il y a une mesure forte, hein, ça a été l'augmentation de la taxe de séjour. On est à 8 euros par personne et par jour sur la taxe de séjour dans un hôtel 4 étoiles, et bon nombre d'hôtels aujourd'hui sont 4 étoiles à Paris. Mais pour autant, on n'a pas véritablement facilité le parcours client. On ne peut pas dire que la ville soit extrêmement propre et on ne peut pas dire non plus que la transition environnementale soit visible.
C'est un problème de répartition des flux touristiques. En fait, l'écrasante majorité des touristes se concentre sur une toute petite minorité de villes ou de lieux emblématiques. Alors, le Mont-Saint-Michel, effectivement, en est un. On s'inspire de plus en plus, qui plus est, des destinations touristiques mises en valeur sur les réseaux sociaux. Il y a un effet d'entraînement. On voit la photo du voisin, en tout cas sur Instagram, et puis allez, on y va à son tour, et puis on augmente encore ce phénomène de surtourisme.
Alors d'abord, il faut relativiser ce phénomène. D'abord, en France, 99% de notre territoire ne souffre pas de surtourisme, mais de sous-tourisme. Alors on peut parler de surtourisme lorsque les populations locales n'arrivent plus à vivre normalement, et en France, il y a assez peu de cas où on peut trouver ce phénomène. L'autre problème en France, c'est le développement inconsidéré des meublés de tourisme, et notamment Airbnb dans certaines villes, qui font flamber les prix d'immobilier. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour pouvoir réguler cette expansion des meublés qui constitue une concurrence déloyale pour les vrais acteurs du tourisme.
Didier Arino, les ponts de mai arrivent. On se souvient encore des images frappantes de l'année dernière. Je parlais de photos de touristes sur les réseaux sociaux. Alors là, on a vu plein de photos du même genre. La cohue à Étretat, par exemple. Vous parliez du Mont-Saint-Michel. Il était quasiment impossible de se frayer un passage dans les ruelles. Même scène observée aux eaux de Beauval. Qu'est-ce que vous conseillez aux auditeurs d'Europe 1 ? Est-ce qu'il faut identifier les points chauds pour mieux les éviter justement aux périodes de pointe comme les week-ends de mai qui arrivent ?
Alors d'abord cette année, malheureusement, on va encore avoir ces pics de fréquentation.
Oui.
Et je dis malheureusement parce qu'en fait le mois d'avril avait du retard en termes de fréquentation touristique, le mois de février n'a pas été exceptionnel et cette année 2024 est loin d'atteindre des pics de fréquentation. Mais il se trouve qu'on
va avoir un effet météo en plus. Après ce mois d'avril assez exécrable, il va y avoir un effet de rattrapage en mai, on imagine.
Il va y avoir un effet de rattrapage et puis il y a cette accumulation des ponts qui font qu'il va y avoir une concentration de la fréquentation touristique sur ce mois de mai, alors que le mois de juin est plutôt annoncé en baisse, y compris le mois de juillet. Donc, on voit bien que si je devais conseiller quelque chose aux auditeurs d'Europe 1, c'est lorsqu'ils le peuvent, c'est de faire un pas de côté. D'abord, choisir des destinations moins fréquentées. Et la France recèle de trésors absolument exceptionnels. On peut aussi, on n'est pas obligé d'aller dans tous les endroits hyper fréquentés. Il y a de formidables destinations touristiques dans notre pays. On peut aller dans les Hautes-Vosges, on peut aller dans le Jura, on peut aller en Provence-Occitane, on peut aller dans l'arrière-pays breton, on peut aller dans... Donc on a vraiment une palette d'expériences possibles, et puis d'ailleurs ces destinations qui correspondent aussi mieux au budget de nos concitoyens, car cette année, le budget des vacanciers français est en baisse de 7% par rapport à l'an dernier, et cela est dû à la crise, mais aussi à l'inflation. Ça fait que les charges contraintes ne permettent pas à bon nombre de nos concitoyens d'avoir le même budget que les années précédentes. J'ai envie de dire que les vacances, quoi qu'il en coûte, c'est terminé, et donc il faut passer à un autre stade.
Oui.
Et on a la possibilité, dans notre pays, de passer de belles vacances sans aller toujours dans les mêmes endroits et aux mêmes périodes.
Bon, en tout cas, on a bien entendu vos conseils, et c'est vrai, il est toujours bon de rappeler que la France regorge de sites exceptionnels et qui, eux, ne souffrent pas de surtourisme. Merci Didier Arino, directeur général, je le rappelle, du cabinet de conseil pro-tourisme ce matin sur Europe 1.
Merci, bonne journée.
Europe 1, bonjour. 5h, 7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Bonjour et bienvenue à tous sur Europe 1. Dans un instant, un roman culte, le talentueux Mr. Ripley. Mais d'abord, le journal permanent. À 6h10, Christophe Lamar.
Emmanuel Macron met en garde contre la mort de l'Europe. Discours marathon de près de 2 heures du chef de l'État hier à la Sorbonne. Le président appelle les 27 pays membres à un sursaut pour bâtir une Europe puissance et une défense crédible. On se dirige vers un classement sans suite dans l'enquête judiciaire sur la blessure par balle de Kenji Girac. Selon le procureur de la République, le chanteur aurait simulé une tentative de suicide après une dispute avec sa compagne. Le ministre de l'Intérieur favorable au couvre-feu pour les mineurs en cas de violence. Gérald Darmanin soutient l'initiative des maires qui ont pris cette décision comme à Béziers. « Je les soutiens et les préfets les soutiendront », a-t-il déclaré hier lors d'un entretien accordé à France 3. Et puis le football avec la 31e journée de Ligue 1, Montpellier-Nantes ce soir en ouverture, coup d'envoi à 21h.
Merci Christophe Lamar. Le journal de 6h dans un peu plus de 5 minutes sur Europe 1.
Europe 1. Excellent début de matinée, vous écoutez Europe 1, c'est vendredi matin, il est 5h52.
Votre rendez-vous culture, c'est d'abord un beau conseil lecture. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Ambline, bonjour Alexandre.
Chaque vendredi, Nicolas, vous nous présentez un classique ou un roman culte. Cette semaine, une romancière.
Patricia Highsmith, oui, une nouvelle adaptation de son chef-d'œuvre connaît un joli succès sur Netflix. Sur la plateforme, ça s'appelle Ripley. Et le livre, Le talentueux Mr. Ripley, évidemment, déjà adapté en film, souvent avec Alain Delon dans Plein Soleil en 1960 et avec Matt Damon ensuite en 1999. Le roman, lui, date de 1955.
Vous nous rappelez peut-être un peu l'histoire, Nicolas ?
C'est celle de Tom Ripley. Au passage, on connaît ce roman-là, mais elle en a consacré 4 autres à ce héros. Mais donc, dans le premier, Tom Ripley est un jeune type qui survit comme il peut dans New York avec des escrocs criminables. Il a tout pour lui, pourtant il a du style, il est cultivé, intelligent. Un jour, un homme très riche, un homme d'affaires, Greenleaf, l'engage. Sa mission, partir en Italie et convaincre le fils de Greenleaf, Dickie, de rentrer en Amérique pour travailler et s'occuper du business familial, plutôt que de vivre la Dolce Vita comme un oisif avec sa petite amie Marge. Tom, il va, il rencontre le couple, Dickie est sous le charme, mais Marge se méfie, il y a un truc qui va pas chez ce Tom Ripley, et elle a vu juste, Tom envie Dickie et sa vie, il est fou de jalousie, il va essayer de prendre son identité et tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'argent, il veut devenir Dickie Greenleaf. C'est un roman génial, un thriller psychologique profond, précis, c'est un roman sur la nature humaine, sur le paraître, sur l'avidité, sur les comportements humains, le personnage de Tom Ripley est un modèle du genre, à la fois maléfique et séduisant, un héros ambivalent, inquiétant, c'est pour ça sans doute qu'elle ne l'a pas lâché après un seul roman.
Le talentueux Mr. Ripley de Patricia Highsmith. Merci Nicolas Caro.
Et on vous retrouve dimanche, Nicolas, sur Europe 1 dans votre émission La Voix est libre, entre 19h et 20h.
Amblin, musique avec vous à 6h05 sur Europe 1 avec un documentaire inédit consacré au groupe américain Bon Jovi. Documentaire disponible à partir d'aujourd'hui sur la plateforme Disney+.
Je n'ai jamais eu de plan B dans ma vie. Voilà, c'était Bon Jovi ou rien. Les mots du chanteur John Bon Jovi face caméra. Le documentaire Thank You, Good Night retrace 40 ans d'un succès qui ne s'est jamais démenti. It's my life.
Jovi, Amblin, c'est vrai que ça reste la vitrine de tout un pan de l'histoire du rock des années 80. Hein.
Absolument, le glam rock moqué par les puristes, on peut l'appeler air metal aussi, hein, si vous préférez baptiser ainsi, grâce ou à cause, hein, vous choisissez, oui. De la capillarité exubérante des musiciens, vous avez les cheveux crêpés,
oui.
Bouffons sur le dessus, des longueurs jusqu'aux épaules, une croix se balance à une oreille en rythme avec les guitares et avec, oh sacrilège dans le rock, le synthétiseur. Bon Jovi, ultra looké, donc, fait partie de ces groupes qui vont tout bousculer sur leur passage. Ils accompagnent la création du CD et sont omniprésents sur la toute nouvelle, toute puissante chaîne de télé américaine MTV. Les uns après les autres, les concerts à fiche complète.
Question qu'on se pose toujours, surtout quand on est fan, est-ce que dans ce nouveau documentaire, on va découvrir quelque chose de neuf sur l'histoire de Bon Jovi ?
En tout cas, c'est la promesse, hein, Alexandre. Les membres du groupe dévoilent des photos rares et des vidéos personnelles, des maquettes inédites, des cahiers de paroles. Tous jouent le jeu et témoignent sans filtre. Les musiciens d'aujourd'hui, ceux d'hier, et notamment le guitariste Richie Sambora, l'autre pierre angulaire du groupe, hein, qui a claqué la porte de Bon Jovi une nuit en 2013. Bon Jovi, vu de l'intérieur, les triomphes, les revers, les excès, les conflits, et aussi l'épreuve qu'a traversé le chanteur quand blessé aux cordes vocales, il a été contraint de se faire opérer. L'Odyssée de Bon Jovi, documentaire en 4 épisodes disponible dès aujourd'hui sur Disney+. 40 ans de musique, Alexandre, 40 ans de coiffure. Voilà, notez que Bon Jovi sortira un nouvel album le 7 juin, son nom, Forever.
Thank
you, good night. Ben oui, bonne jovie. En tout cas, bienvenue et bon réveil, chers auditeurs. Vous êtes sur Europe 1. Il est 5h57. Merci, Amblin Roche. Et merci à tous d'avoir choisi Europe 1 avant votre week-end. La météo, dans un instant.
Et votre interview avec Alexandre Lemaire, ce sera à 6h40.
Oui, après le journal de 6h30. Vous savez que deux agences de notation, Fitch et Moody's, vont remettre ce soir leur note à l'économie française pour noter, mesurer la solidité financière de la France. Le gouvernement serre un petit peu les dents, hein. Conséquences économiques, bien sûr, et politiques. Le camp présidentiel en difficulté dans les européennes. Tout savoir sur ces agences de notation. Comment donnent-elles exactement ces notes au pays, à la France? L'économiste Xavier Timbaud vous répondra à 7h20 sur Europe 1.
Retour du pressing après le journal, les articles à lire dans la presse ce matin.
Et à 6h20, votre partition, Omblin.
Bon, bah, j'ai décidé de vous bousculer encore un petit peu. On reste avec des rockers
très
chevelus.
Rock ce matin.
Voilà, les métalleux anglais, cette fois, de Def Leppard. Def Leppard, tête de proue au début des années 80 du courant musical baptisé Nouvelle Vague du Heavy Metal britannique. Mais qu'est-ce que c'est? Bien, on en parle dans 20 minutes.
À tout à l'heure. Avant le journal de 6h sur Europe 1, le temps pour ce vendredi, Anissa Dadi. Un temps plus doux, mais un temps gris, c'est couvert.
Vous voulez retourner au dodo, c'est ça, un temps plus dodo. Hein. C'est plus doux, certes, ouais, puisqu'on n'a plus aucune gelée ce matin. 3 degrés à Reims et Strasbourg, 5 à Aurillac. 8 degrés ce matin à Paris et Toulouse, 9 à Biarritz et Lyon et 11 à Marseille et 7 après-midi. Bon, c'est quasiment stationnaire par rapport aux derniers jours. Il y a des petites remontées, 12 degrés à Lille, 13 à Besançon, 16 degrés à Paris et Clermont-Ferrand et 19 à Ajaccio. Enfin, on reste toujours en dessous des 20 degrés partout et on reste toujours en dessous des moyennes de saison. Dans le ciel, bah vous le disiez Alexandre, c'est gris et c'est beaucoup moins réjouissant que du côté du thermomètre puisque c'est une journée très instable, très très couverte, avec des averses actuellement ce matin et tout au long de la matinée entre le Languedoc et le Grand Est. Mais ce ne sont pas de simples averses, des averses orageuses avec des orages assez forts qui éclatent entre les Cévennes, le Var, la Provence, la vallée du Rhône. Là, vous allez me dire, ok, c'est le sud-est, ça va mieux ailleurs. Pas du tout, puisqu'on a une autre zone pluvieuse à l'ouest, entre les côtes de la Manche.